Chapitre 5. Le train express spécial de Henry Cabot Lodge arriva à Chicago le matin du 29 avril, tous ses passagers étant frais et dispos et d'excellente humeur. Tous, sauf Sherlock Holmes, plus que jamais perdu dans ses pensées. Il était prévu que le train de Lodge resterait sur une voie de garage à moins de 50 mètres de l'entrée ouest de l'exposition. En arrivant au terminus, les visiteurs se déverseraient par le grand portail de la gare, sur l'esplanade face au palais de l'administration, d'où ils pouvaient s'égayer vers le reste de la ville blanche. Les invités de Lodge seraient libres de leurs mouvements et auraient accès au train pour rentrer se reposer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit s'ils le souhaitaient. Les cuisiniers et le reste du personnel seraient sur le pied de guerre. L'hébergement principal des invités serait cependant ailleurs. Leur premier arrêt ce matin-là fut au port de plaisance de Chicago. Ils furent transportés jusqu'au yacht des Grands Lacs de Don Cameron, le majestueux Albatros, où on leur désigna leur cabine, tout aussi luxueuse, quoique un peu plus petite que celle du train. Le yacht disposait aussi de quantités de domestiques qui avaient pour mission d'apporter des boissons fraîches et même des repas complets à toute heure. Cameron rassembla ses amis avant qu'ils ne partent pour l'exposition et leur expliqua que des messagers étaient mobilisés pour leur communication au cas où certains d'entre eux décideraient de dormir dans le train ou d'aller y faire un tour pour se rafraîchir, et qu'il y aurait toujours au moins une, si ce n'est deux vedettes, à disposition pour les transporter jusqu'au ponton du casino ou les y chercher de nuit comme de jour. Et ils allaient pouvoir partir explorer la foire. John Hay et Henry Cabot Lodge avaient distribué à tous, même à la jeune Hélène, le macaron des visiteurs invités, indispensable sésame qui donnait accès à toutes les attractions de la ville blanche et de l'avenue monumentale du Midway Plaisance. Lodge expliqua que le directeur de l'exposition, Daniel Burnham, l'avait averti qu'il y aurait encore beaucoup de petits travaux en cours, évacuation de gravats, démontage des rails temporaires, plantation de fleurs et même d'arbres à la dernière minute, et ultime couche de peinture blanche sur les gigantesques bâtiments, mais que tout était fait pour que les visiteurs n'en soient pas incommodés. En dernier lieu, Lodge leur conseilla de ne rien manquer sur le Midway Plaisance et son kilomètre et demi d'attraction. Burnham avait dit à Henry Cabot Lodge que tout était fin prêt sauf cette fichue, le directeur de l'exposition ayant utilisé un autre terme, grande roue de ferris dont le montage ne serait terminé qu'en juin. En attendant, l'avenue était bordée d'un village algérien et d'un autre tunisien, où l'on trouvait de la nourriture exotique tout en admirant des jongleurs et des danseuses de ces contrées lointaines. Un train rapide à propulsion hydraulique, le Bar Sliding Railway, devait tirer des hurlements ravis à ceux qui l'empruntaient. Le théâtre électrique offrait à des assistances de 100 personnes un voyage dans les Alpes bernoises, fendant l'air frais des montagnes, réfrigérées grâce à l'électricité. Les spectateurs survolaient 50 kilomètres d'une reconstitution des sommets enneigés. Il y avait aussi un ballon captif que Lodge ne recommandait pas à ses dames, ainsi qu'un village chinois, un village du Dahomey, un village turc, un village allemand, tous peuplés de centaines d'autochtones vêtus à la mode de chez eux. Côté culture, on trouvait sur le Midway Plaisance les arènes zoologiques de Hagenbeck, placées à proximité du pavillon de musique hongrois où des ensembles en costume jouaient des airs tziganes. Non loin, le pavillon viennois avec ses orchestres et son café. Il y avait une rue du Caire parfaitement reconstituée, peuplée d'Égyptiens en djellaba avec leurs chiens, leurs serpents, leurs singes, ainsi qu'un immense bâtiment consacré au paysage du volcan Kilauea pour les amateurs de sensations fortes. Quand on souffrait trop de la chaleur, on pouvait aller barboter au natatorium, une piscine couverte. Au cours de ce week-end, la ville blanche ne serait encore éclairée que par ses becs de gaz et le clair de lune, mais Lodge promit que dès le lundi 1er mai, à l'issue de l'ouverture officielle par le président qui devait appuyer sur le bouton magique, la ville blanche et son parc d'attractions du Midway Plaisance deviendraient les lieux les plus extraordinairement lumineux de la planète. Le 1er mai serait aussi le jour où ils pourraient quitter leurs vêtements d'hiver pour endosser les costumes et robes en lin plus légers. Ce fut donc vêtu presque pour la dernière fois de sombre qu'ils montèrent dans les vedettes qui les attendaient pour les emmener à terre. Sherlock Holmes quitta le groupe dès qu'ils eurent accosté. Il avait prévu de voir le colonel Rice, M. Drummond et le chef de la police de Chicago, Robert McLaughlin. Henry James, quant à lui, avait décidé de rester à bord de l'Albatros. Le lac Michigan était si calme que le grand yacht ne tanguait pratiquement pas au mouillage. Il avait envie de faire une petite sieste dans sa cabine lambrissée d'acajou et capitonnée de soie et de velours. Il s'éveilla un peu après la tombée de la nuit et vit qu'il était seul à bord avec l'équipage. Les autres étaient encore à terre, occupés par les joyeuses célébrations. Une vedette à vapeur et un pilote l'attendaient. Alors que James s'approchait de l'échelle, l'homme de bar lui dit « « Je vous amène au ponton de la Ville Blanche, monsieur ?»«
Non, » répondit James, le cœur battant si vite qu'il avait le souffle court.
« Conduisez-moi au port principal de Chicago. »